Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Début du conclave le 7 mai, la date a été annoncée à l'issue de la 5e congrégation générale qui a eu lieu de 9h à 13h ce lundi 28 avril. Plus de détails dans quelques instants. Comment les cardinaux vivent-ils cette expérience, eux, entre les mains desquels repose le destin de l'Église et son orientation prochaine? Nous écouterons le cardinal Cristobal López Romero, archevêque de Rabat au Maroc, qui nous confie son état d'esprit. Et l'afflux des pèlerins au pied de la sépulture de François s'observe. Plus de 30 000 personnes se sont inclinées devant sa tombe depuis son ouverture aux pèlerins dimanche matin, selon la salle de presse du Saint-Siège. Comment, avec quelle émotion les fidèles africains qui n'ont pas pu se déplacer pour Rome ont vécu les funérailles du pape François? Nous irons une fois de plus à la rencontre de sœur Alice Guilobo, religieuse de la congrégation des sœurs servantes de Marie des Douala, qui a suivi cette messe des requiem dans le recueillement et la prière à la télévision. Ce sera tout pour les titres, les détails dans quelques instants.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendéquéré.
17 jours après la mort du pape François, les 135 cardinaux électeurs se réuniront pour désigner le 266e successeur de Pierre dans la chapelle Sixtine. Le 7 mai prochain initiera le conclave. La date a été annoncée à l'issue de la 5e congrégation générale qui a eu lieu de 9h à 13h ce lundi 28 avril et à laquelle ont participé 190 cardinaux dont un peu plus d'une centaine de cardinaux électeurs. Stanislas Kambashi.
Oui, Fabrice, dans la matinée de lundi, les cardinaux présents à Rome ont tenu la 5e congrégation générale. Les 180 cardinaux présents, dont plus de 100 électeurs, ont décidé de la date du début du conclave, la fixant au 7 mai prochain. C'est donc à partir de cette date que les 135 cardinaux électeurs se réuniront dans la chapelle Sixtine pour élire les successeurs du pape François, le 267e pape et 266e successeur de Saint-Pierre. Au cours de cette 5e congrégation générale tenue lundi, près de 20 interventions se sont succédées portant sur l'Église catholique, ses relations avec le monde, les défis à venir et les qualités que le nouveau pape devra posséder pour y répondre. Conformément à la constitution apostolique Universi Dominici Gregis, signée par Saint Jean-Paul II en 1996, puis complétée par Benoît XVI et François, le conclave débutera au 17e jour des vacances du siège apostolique. Le matin du mercredi 7 mai, date du début du conclave, tous les cardinaux se retrouveront dans la basilique Saint-Pierre au Vatican afin de prendre part à la messe votive Pro Eligendo Romano Pontefice. Puis dans l'après-midi, ils se rendront dans la chapelle Pauline du palais apostolique et, en habit de cœur, ils iront en possession solennelle au chant du Veni Creator jusqu'à la chapelle Sixtine. Signalons que la prochaine congrégation générale des cardinaux aura lieu mardi dans la matinée. Elle commencera avec la méditation du père abbé de la basilique Saint-Paul hors les murs, Don Donato Oliari. Les congrégations générales se tiendront jusqu'au 6 mai inclus, exception faite pour le 1er mai, fête du travail, et le dimanche 4 mai.
Entre-temps, le Collège des cardinaux assure la continuité du gouvernement de l'Église. Entre leurs mains repose son destin et son orientation prochaine. Une dense expérience spirituelle pour ces hommes des quatre coins du globe, aux horizons variés, dont 108 ont été créés par François. C'est le cas de l'archevêque salésien de Rabat au Maroc, créé lors du consistoire du 5 octobre 2019, le cardinal Cristobal López Romero, aussi président de la CERNA, la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique.
Il y a déjà presque une semaine du décès du pape François, j'ai fait un peu le deuil intérieur de la perte d'un père, un frère aîné, d'un ami, d'un modèle de pasteur et de berger pour moi. Alors, pendant ces jours que nous avons visité plusieurs fois ces dépouilles, que nous avons été dans les réunions des cardinaux, nous avons réalisé un peu ce que nous avons perdu, qu'est-ce que le décès du pape François suppose pour l'Église et pour le monde. Mais nous sommes des personnes de foi et ça nous donne de l'espérance parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église et nous savons que nous sortirons de tout cela avec notre pape et que lui, depuis le ciel, nous aidera plus qu'en étant sur terre. Je pense que nous devons faire de tout cela une expérience spirituelle. Nous devons faire effective notre foi en l'Esprit Saint. Nous croyons que l'Esprit Saint est vivant et qui est à l'œuvre. Il est en action et il est le moteur et l'âme de l'Église. Alors c'est à ce moment qu'on touche de la main cette réalité. Et alors je la vis avec spiritualité profonde, en prière et avec responsabilité de faire les choses de la meilleure façon possible et avec liberté d'esprit. Je ne reçois pas des influences de personnes, grâce à Dieu. Ce n'est pas comme autrefois que peut-être les autorités civiles se mêlaient à tout cela, non. Maintenant, nous avons toute la liberté du monde pour décider en conscience, en cherchant le plus haut bien de l'Église et du monde.
Et pendant ce temps, des fidèles continuent d'affluer sur la tombe de François. C'est plus de 30 000 personnes qui se sont déjà inclinées devant sa sépulture depuis son ouverture aux pèlerins dimanche matin selon la salle de presse du Saint-Siège. Signalons que la troisième messe des Novena Diali en suffrage du pape a été célébrée dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le cardinal Baldassare Reina, vicaire général de sa sainteté pour le diocèse de Rome. Le don de sa vie, c'est le témoignage que le pape François laisse aux ecclésiastiques, prêtres et diacres, nous disent le père Jean-Marie Parra, prêtre, et Stanislas, diacre, présent aux funérailles de François.
Monsieur le père Jean-Marie Parra, moi ce que je retiens c'est le don de sa vie. Le don de sa vie, surtout dans ces derniers jours, il a vraiment donné sa vie jusqu'au bout, et qu'il soit mort à un lundi de Pâques, ça dit quelque chose du mystère de la résurrection, ça dit quelque chose aussi de la joie chrétienne. Alors ce que je retiens plus particulièrement, c'est sans doute son impact mondial, son impact ecclésial et son impact œcuménique. J'étais très touché par la prière à la fin de nos frères orientaux autour du cercueil du Saint-Père, comme quoi c'est vraiment le pape de tous les rites de l'Église catholique. Et ça, c'est très beau.
Stanislas, je suis diacre du diocèse de Luçon. On a vu un homme qui s'est donné, on a envie de soi-même de se donner. On a vu une figure de pasteur qui a donné... toute sa vie pour ses brebis. On a entendu l'évangile du jour « Pierre m'aimes-tu, paie mes brebis ». Et quand on se prépare au sacerdoce, à devenir prêtre, c'est un véritable exemple. Et ça met dans le cœur un désir d'être plus conformé au Christ pasteur comme le pape. Probablement l'amour de son peuple. On parle souvent de sa proximité, voilà, il nous disait souvent connaissez l'odeur de vos brebis. Il est vraiment venu au milieu de son peuple. Il nous a délivré une magnifique encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus. Qu'est-ce que c'est? C'est le Verbe de Dieu qui est descendu jusqu'à nous, jusqu'à dans la misère de notre humanité, pour nous parler, pour passer du temps avec nous. Et je crois que le pape François a marché sur les traces du Christ de cette manière-là. Ouais.
Retransmise en Mondovision, la messe des funérailles du pape François a été suivie par plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde. À Douala, au Cameroun, sœur Alice Guilobo de la congrégation des sœurs servantes de Marie de Douala a suivi cette messe des requiem dans le recueillement et la prière. L'image qu'elle retient de cette célébration, c'est sa simplicité, l'humilité, dit-elle, qu'encore une fois François a enseigné à l'Église et au monde.
C'était une cérémonie historique à ne pas manquer. Et étant assise devant mon petit écran, c'était comme si j'étais vraiment là. Tout était simple, coordonné, ordonné. C'était vraiment divin, simple et priant. Comme on dit chez nous, on meurt comme on a vécu. Ça disait toute la simplicité du pape. Ces obsèques sont une remise en question pour tout être humain. qui a vraiment une conscience et qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Le pape, dans sa vie et dans sa mort, nous a laissé des messages très très forts. J'étais en plein dans la cérémonie parce que je reprenais les gestes quand on acclamait le pape au moment de la sortie de la place Saint-Pierre pour la basilique Sainte-Marie-Majeure où il a été inhumé. Je me mettais debout, j'acclamais et j'entendais des slogans « Vive le pape, vive le pape !» Et vraiment, j'ai aussi pris le temps de lui dire merci.
Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de ces messages forts que la vie et la mort du pape François nous laissent?
Le premier message parlerait de la simplicité de la vie et offrir la vie aux autres, ne pas être un frein à l'épanouissement, accueillir des personnes, surtout celles qui sont différentes de moi, différentes au niveau de la religion, au niveau des opinions, au niveau de l'origine. Et j'ai vu également cette jeunesse qui était vraiment représentée et ce qui est venu à moi, c'était le message du pape adressé à cette jeune lors des journées mondiales des jeunes pour dire aux jeunes, vivez votre vie, mais en même temps, on doit aussi s'imprégner de la sagesse qui est autour de nous, la sagesse des grands-parents, la sagesse des personnes aînées pour l'unité de la famille. Donc c'est un peu ça. Tout le monde l'a vu d'ailleurs en Mondo Vision le jour de Pâques, lorsqu'il donnait la bénédiction Urbi et Orbi. Pour moi, je vais dire que le pape est mort les armes à la main. Le pape avait l'habitude de demander au peuple de Dieu de prier pour lui. Le cardinal Ray, dans son homélie, lui a demandé de prier pour nous.
Concernant l'Église en Afrique, est-ce qu'il y a des messages spécifiques qui pourraient nous être adressés dans la vie et la mort du pape François?
Bien évidemment, en tant qu'Africaine, je me suis laissée interpeller par l'appel à intégrer la simplicité du pape François, surtout lors des obsèques. Le modèle du cercueil d'ailleurs était simple. Hein. Et pourquoi pas aussi un autre message, réduire au maximum les dépenses. Repenser dans les obsèques et quelques rites, hein, parce que c'est ça qui faisait la simplicité et la beauté de la liturgie. Un autre message aussi, l'accueil des pécheurs et des migrants. Les personnes en situation de vulnérabilité. On a l'habitude de dire que l'Afrique, vraiment, on a ces gènes-là de l'accueil, de la solidarité. Mais de plus en plus, on tend à perdre ces valeurs. Nous voyons comment nos propres frères africains sont menacés au niveau de l'Afrique, parlant des migrants. Il faut qu'on intègre cela et que chacun retrouve sa dignité, qu'on respecte la dignité de chacun. L'Afrique doit concrètement donc retrouver ses lettres de noblesse d'accueil. Que nous prenions ce qui est bien vraiment chez les voisins, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, et que nous gardions nos valeurs. Et en Afrique aujourd'hui, aussi, le pauvre n'est pas écouté. Nous voyons même dans l'Église, la personne qui n'a pas l'argent est rejetée. C'est vraiment le message fort. Que chacun retrouve sa dignité, qu'on respecte la dignité de chacun.
Des perspectives, quelques perspectives après ces obsèques.
Je parlerai plutôt des souhaits. Mon premier souhait, qu'on limite l'acquisition et l'usage des biens de ce monde. Qu'on repense vraiment la sobriété, une vie de sobriété, une vie simple, avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de miséreux, ces écarts qui existent entre ceux qui ont de trop et ceux qui sont vraiment dans une situation de misère, et répandre la joie autour de nous, la joie de l'Évangile. Aussi, vraiment, ma prière est que Dieu nous donne un autre pape qui viendra nous aider à faire face aux défis qui nous attendent.
C'était donc la sœur Alice Kouilobo de la Congrégation des sœurs servantes de Marie de Douala. Elle était interrogée par Paul Valéry Mendogo. Et jusque dimanche, des messes en suffrage pour le défunt pape ont été célébrées dans différents diocèses du continent avec une proximité ressentie des autorités civiles. Johanita Scolastic nous rend compte de cette communion à Conakry.
Après la présentation des condoléances des évêques de Guinée, des messes ont été organisées pour le repos de son âme. Dans l'archidiocèse de Conakry, la messe célébrée par le nonce apostolique en Guinée et au Mali, en la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, a réuni des autorités politiques, mais aussi religieuses. au cours de l'homélie, l'archevêque métropolitain de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, déclare
« Notre surprise est grande, mais nous la gérons dans l'action de grâce à Dieu. Rendre hommage au pape François, qui nous a appris par ses paroles et par ses actions à vivre dans l'humilité, la simplicité et l'attention radicale aux personnes marginalisées, aux périphéries. »
La messe prit fin dans une ambiance de recueillement profond. Jonita Scholastic, Conakry, pour Radio Vatican.
Et pour conclure ce journal, un regard sur l'actualité sociopolitique sur le continent avec Stanislas Kambashi.
Plusieurs ONG ont pressé lundi le président du Liberia, Joseph Boakai, à renouveler les bureaux chargés de mettre en place un tribunal pour juger les crimes lors des guerres civiles et que les victimes réclament depuis la fin des atrocités il y a plus de 20 ans. Environ 250 000 personnes ont perdu la vie lors des deux guerres civiles qui ont déchiré ce pays ouest-africain. Entre 1989 et 2003, depuis mai 2024, le président Boakai a signé un décret établissant un office chargé de créer le futur tribunal, une décision qui a été saluée comme une avancée majeure dans la quête de justice contre ces crimes. Le décret doit expirer le 1er mai, selon cette organisation de défense des droits humains et des victimes des crimes. Elles ont appelé lundi au renouvellement du mandat du bureau dans un communiqué commun. Le principal parti d'opposition en Ouganda a affirmé lundi que son quartier général dans la capitale Kampala était bouclé par les forces de sécurité pour l'empêcher de lancer une campagne de manifestation avant l'élection présidentielle. Les forces de sécurité, la police, l'armée, toutes lourdement armées, ont bouclé le quartier général de notre parti et nous ne pouvons y accéder, a déclaré le secrétaire général du parti NUP, National Unity Platform, Lewis Rubongoya. Le parti NUP, dirigé par l'ancien musicien Bob Wine, a été la cible fréquente des forces de sécurité ces dernières années dans ce pays d'Afrique de l'Est. Cette opération intervient au moment où l'Ouganda se prépare pour une élection présidentielle en janvier 2026 avec le président Museveni comme nouveau candidat. Quittons l'Ouganda pour le Soudan du Sud voisin où sévit une tension politique. Un responsable de l'opposition sud-soudanaise a accusé dimanche le gouvernement du président Salva Kiir de préparer un génocide ciblant l'ethnie Nuer après que l'exécutif a qualifié d'hostile la majorité des comtés où cette ethnie est présente. Riek Machar, grand rival de Salva Kiir et vice-président, arrêté le mois dernier après plusieurs semaines d'affrontements entre les forces des deux hommes, appartiennent à l'ethnie Nuer, l'une des plus importantes du pays. Cette communauté s'étend sur 16 comtés. Parmi ces comtés, 9 sont considérés comme hostiles au gouvernement, principalement alignés au parti du vice-président Machar et sa branche armée, ajoutent les textes. Cette qualification dangereuse ne constitue rien d'autre qu'une indication sur la cartographie d'un génocide contre la communauté Nuer, a déclaré Ruth Mwoch Tang, un député et haut responsable du parti de Riek Machar. Un autre proche de Riek Machar, citant un rapport de l'Union africaine, a rappelé qu'en 2013, des hommes Nuer ont été ciblés, identifiés, tués sur place ou bien regroupés avant d'être exécutés.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici donc que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.
Streets of Soweto.